Précarité, la défaite des mères. Un débat organisé par l'agence Alter et son magazine Alter Eco avec le concours de Bruxelles nous appartient et le soutien d'Equal Bruxelles. Véritable ralentisseur de carrière et accumulateur de dépenses, la maternité a un coût bien réel pour les femmes et leur indépendance économique. C'est ce que soulignait en juin dernier dans une note l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes en France. Avant d'interroger, pour les femmes, quel est le coût d'être mère ? À l'évidence, la facture est salée, a fortiori pour les femmes qui connaissent déjà une ou plusieurs formes de précarité. Départ du géniteur, à l'annonce de la grossesse, davantage de difficultés à trouver un logement pour les femmes en situation irrégulière, risque accru de perdre son emploi. Les facteurs de risque sont donc nombreux et les liens entre maternité et précarité, pluriels et complexes. Pour en discuter, nous recevons trois professionnels et experts de ces questions. Rachel Gourdin, vous êtes sage-femme au sein de l'ASBL Aquarelle. Sylvie Anzalone, vous êtes porte-parole de l'Office de la naissance et de l'enfance, l'ONE. Et Emmanuel Van Beuzin, vous êtes coordinatrice du projet Born in Brussels. Merci à vous d'être avec nous pour ce débat. Et première thématique, c'est d'aborder effectivement la précarité et la maternité. En quoi justement cette précarité est source de difficultés pour les futures mères? Je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole sur ce sujet.
Bonjour, je vais prendre la parole.
Rachel Gourdin.
Pourquoi c'est source de précarité? Bah écoutez, vous avez déjà cité pas mal de choses là en introduction, hein, dans la perte de l'emploi, ce qui peut arriver régulièrement. Donc à Aquarelle, nous on travaille essentiellement avec des femmes qui sont sans papier, sans couverture santé, et donc pas en ordre administratif sur le territoire belge. Donc quand il y a un travail qui n'est pas déclaré, hein, du travail informel, et donc pas de protection non plus de la part de l'État. Donc ce sont des femmes qui peuvent perdre leur travail du fait de la grossesse, du fait qu'elles aient beaucoup de rendez-vous médicaux, donc des absences qui ne sont pas couvertes par des certificats. Et donc, si elles perdent ce travail-là, elles perdent l'entièreté du revenu qui va avec. Donc ça, vous l'avez cité, hein, la perte d'un emploi. Le logement, vous l'avez cité, ça aussi, c'est une grosse, grosse problématique. Encore une fois, pour les femmes qui ne sont pas en ordre de papier, il est très compliqué de se loger. Elles peuvent faire appel à des gens de la communauté ou des amis, voilà. Mais ça n'a qu'un temps, en fait. Hein. Et donc, quand elles sont enceintes, ça peut encore passer, mais très rapidement, on leur dit, quand le bébé sera là, tu ne pourras pas rester ici. Et puis, il y a aussi les centres d'hébergement. Donc, c'est-à-dire que quand elles sont enceintes, elles peuvent aller dans un centre d'hébergement. Mais aussi, ce ne sont pas les mêmes centres d'hébergement qui accueillent les familles. Donc, encore une fois, ça veut dire redéménager, refaire un réseau. Enfin, voilà. Et donc, toutes ces difficultés-là aussi, du fait de la grossesse, uniquement du fait de la grossesse. Donc je pense que voilà, je vous laisse continuer là-dessus.
Emmanuel Van Beuzin.
Oui, c'est sûr qu'elles ont du mal à assurer le quotidien et imaginer la pré-naissance quand on a déjà une insécurité totale, matérielle, physique et parfois psychique. Et je pense aussi à toutes ces futures mamans qui n'ont pas accès au monde numérique dû à la fracture, pour différentes raisons, parce qu'elles ne comprennent pas les langues dans lesquelles les informations sont proposées sur nos sites web en Belgique, parce qu'elles n'ont pas accès aux soins, ou du moins les gens n'ont pas le temps de leur expliquer, ou ne trouvent pas de médiateur interculturel pour les aider. Et donc, chez nous, à Born in Brussels, on propose des informations à des acteurs bruxellois dans les différentes thématiques qui peuvent aider les professionnels qui ont en face d'eux une patiente et qui peuvent la guider. Puisque les informations sont proposées en français et en néerlandais, donc on est bien conscient que beaucoup de mamans n'ont pas accès à ces informations. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de toucher vraiment les travailleurs sociaux, mais aussi les sages-femmes, les généralistes, tous les gens de première ligne qui peuvent trouver des informations pertinentes, comme par exemple, disait Rachel, une maison d'hébergement pour une maman solo. Toutes les maisons d'hébergement ne fonctionnent pas de la même manière, comme tu dis, donc les critères sont très différents. Donc, c'est compliqué d'expliquer ça à une maman qui ne comprend pas le français ou le néerlandais. Donc,
Et si je vous entends bien, c'est de créer le réseau le plus adéquat possible par rapport aux réalités. Justement, par rapport à ces situations, aux constats qui ont été posés à l'ONE, qui est un peu une structure coupole, on va dire, comment on travaille justement cette question de la précarité
Alors, j'aime beaucoup rappeler le fait que l'Office de la naissance et de l'enfance travaille avec toutes les familles et qu'aujourd'hui, ce qui ressort du terrain, donc c'est quand même plus ou moins, hein, 800 PEPS, ce qu'on appelle les PEPS, travailleurs de première ligne sur le terrain, donc les partenaires enfants-parents. Et en fait, ce qui ressort de plus en plus, c'est que la précarité, dans son sens, j'ai envie de dire, dans sa définition la plus basique, à savoir l'incertitude, l'insécurité, hein, l'instabilité, elle se complexifie et elle existe sous diverses formes. Donc c'est vrai qu'on a parlé du logement, ça c'est quand même j'ai envie de dire la base, hein, d'avoir un logement correct, d'avoir un emploi, c'est-à-dire de quoi subvenir à ses besoins, de quoi savoir payer. Et donc quand on dit la précarité, est-ce que c'est une difficulté pour les mères? Évidemment, elle l'est. Elle n'est pas que celle-là. Ça peut être aussi une précarité psychique, psychologique. Et toutes ces formes de précarité aujourd'hui amènent l'Office de la naissance et de l'enfance à devoir faire un accompagnement de plus en plus au cas par cas, avec tout un réseautage. On ne peut pas travailler tout seul, et ça on le sait. Et c'est même pas une question de ce ne sont plus mes compétences, c'est la compétence de l'autre. Bien évidemment, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout simplement comment est-ce qu'on peut encadrer au mieux toutes ces personnes et garder le lien de confiance qui a été créé dans la continuité, puisqu'on sait que ce sont des précarités en général qui ne vont pas se résoudre en un tour de main, puisque l'une engendre l'autre, et que donc on a vraiment à faire une espèce de boule de foin, comme ça, hein, où tout s'entremêle. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut penser, la maternité ça veut dire l'enfant, comment est-ce qu'on peut penser l'épanouissement, j'ai envie de dire global, d'un enfant dans une insécurité? C'est presque antinomique avec une définition de base.
Et,
voilà.
Et par rapport à, comment dire, à cette situation, il y a quand même des chiffres qui apparaissent. Vous disiez, Rachel, qu'il y a environ 8,8% des femmes enceintes qui n'ont pas de couverture médicale. Ça, c'est des chiffres qui étaient dans notre magazine, mais vous avez évoqué ces situations, en tout cas, par rapport à la couverture médicale. Et on sait qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a environ, grosso modo, une centaine de femmes qui arrivent à l'hôpital pour accoucher sans jamais avoir consulté une seule fois un expert, une sage-femme, pour leur grossesse. Ce sont aussi des femmes qui ont deux fois plus de risques d'accoucher d'un enfant avec un faible poids de naissance ou d'un enfant prématuré. Alors, on a évoqué cette question de la précarité, comment aussi l'importance d'un réseau se faisait, comment on fait, quelles sont aussi peut-être les conséquences médicales de cette précarité, et voir un peu à vos niveaux respectifs comment, qu'est suivi à porter, parce que vous évoquiez effectivement c'est du cas par cas, mais l'importance d'un réseau apparaît dans chacun de vos commentaires. Comment on peut apporter le suivi le plus adéquat dans des quartiers, des communes ou des régions qui sont marquées par la précarité et l'isolement social? Je vous regarde, Rachel Gournay.
Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Comment aborder? Alors déjà, il faut savoir que l'accès aux soins est un droit universel qui est reconnu aussi en Belgique, et du coup, voilà, une femme enceinte, ça c'est très important de le dire, avec ou sans papier, a le droit d'avoir un suivi médical. Et donc, ce qu'on utilise beaucoup ici, c'est l'AMU, donc la carte médicale. Je ne parle pas des dames qui sont en demande d'asile, ni des jeunes étudiantes qui sont en situation de précarité, tout ça. Mais les dames qui sont sans papier ici en Belgique ont le droit d'avoir une carte médicale pour pouvoir faire suivre leur grossesse. Et ça, il faut que, donc, du coup, tous les intervenants partout le sache et puisse le faire. C'est-à-dire que vous êtes face à une femme qui est en situation de grossesse, elle n'a pas de papier, et ben, vous faites en sorte de rédiger une aide médicale urgente qu'elle ira déposer au CPS, et vous l'orientez vers n'importe quelle structure. Finalement, Aquarelle n'est pas la seule structure à pouvoir s'occuper de femmes sans papier. C'est juste que nous, on s'est spécialisé là-dedans. Mais en fait, n'importe quelle sage-femme libérale peut s'occuper d'une dame qui a une AMU en ordre. Donc déjà, c'est ça. Vous parliez d'une centaine de dames. Moi, je me demande si c'est même pas plus, en fait. Hein. Ne serait-ce qu'à Saint-Pierre, les dames qui arrivent sans avoir été suivies pendant leur grossesse, c'est vraiment un grand nombre. Hein. Et donc, vous parliez des répercussions. Elles sont très importantes, les répercussions. Évidemment, ça veut dire qu'il n'y a aucun dépistage anténatal, que ce soit pour le fœtus, que ce soit pour les pathologies de la mère. Donc, elle arrive lors d'un accouchement, personne ne sait rien, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, donc c'est très inconfortable pour l'équipe aussi. Et puis, généralement, oui, On peut avoir, alors ça peut très bien se passer, hein, mais comme il peut y avoir beaucoup plus de prématurité, petits poids à la naissance et des pathologies qui n'ont pas été décelées. Et donc c'est aussi des séjours finalement hospitaliers qui sont rallongés parce qu'on doit rattraper les examens. Hein. Donc c'est vraiment pas très confortable. On peut s'épargner tout ça et surtout le temps d'une grossesse, c'est nécessaire. On parle de femmes en situation de précarité, mais toutes les femmes qui ont... Voilà, qui vivent une grossesse, savent que c'est très important aussi de pouvoir prendre ce temps-là pour déposer des choses, pour se projeter. Il y a beaucoup de bouleversements psychiques, physiques qui ont lieu. Et donc, c'est très, voilà, ce n'est pas aussi que d'un suivi médical, c'est aussi un suivi psychique pour le bien-être.
Et justement, vous évoquiez, Rachel Gourdin, cet aspect aussi d'information. Il faut que tout le monde soit au courant qu'on a accès... aux soins. J'imagine, tant du côté de l'ONE que du côté de Born in Brussels, il y a aussi cette volonté d'informer pour créer justement ce réseau que vous évoquiez.
Oui, donc l'idée, c'est de référer les travailleurs sociaux. Dans ce cas-là, c'est souvent des mamans, donc, comme je disais, qui n'ont pas accès au monde numérique ou qui ne comprennent pas le français ou le néerlandais. Donc, il y a énormément d'informations sur le site de l'ONE, bien sûr, qui est vraiment le site phare en matière de grossesse et de naissance, petite enfance. Mais Born in Brussels donc, arrive avec une particularité, c'est celle de rassembler la diversité culturelle et les problèmes spécifiques à une région comme Bruxelles. Et donc l'idée, c'est de fédérer les acteurs entre eux dans le secteur périnatal et de faciliter la transmission de l'information. Donc, il y a beaucoup de conseils juridiques dont on offre, par exemple, beaucoup de questions juridiques en langage clair, ce qui permet aussi pour les intervenants qui ne sont pas spécialistes juristes, assistants sociaux, médecins, sages-femmes ou autres, de pouvoir lire une information, de la donner à sa patiente de la manière la plus claire, compréhensible possible. Et donc, encore une fois, avec nos bases de données, notamment SOS, c'est toute l'urgence périnatale. Donc, c'est tous les endroits où les mamans peuvent trouver de l'aide au niveau papier, administration, soins, hygiène, boissons, matériel pour la petite enfance. Mais encore une fois, Rachel, je pense qu'elle le disait aussi, les services sont assez saturés. Donc, on peut faciliter la transmission de l'information et c'est très important pour l'après, pour l'allaitement, pour comment elle va prendre en charge cet enfant, est-ce que faciliter son empowerment, donc sa confiance aussi en elle, malgré les difficultés qui sont très nombreuses. Mais il faut aussi que les services puissent être à la hauteur. Or, je sais qu'ils sont saturés à Bruxelles pour beaucoup. Donc, voilà, ça reste une question complexe.
Et vous aussi, vous disiez... Nous, à l'ONE, effectivement, sur cette question de précarité, on fait du cas par cas. Néanmoins, il y a des grandes constantes. Et justement, par rapport à ce suivi médical dans des poches, parce que vous êtes actif à Bruxelles et en Wallonie, mais j'imagine qu'il y a peut-être des différences aussi dans des régions, des quartiers, des communes. Donc, comment aussi apporter ces informations? On le disait, votre site est très détaillé et... on va dire une référence entre guillemets pour tous ceux qui ont des questions sur la maternité, la petite enfance. Mais voilà, comment on fait justement pour arriver à toucher ce public?
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Et donc, ce que je voulais quand même bien spécifier, c'est qu'en effet, dans les chiffres que nous avons, dans les tableaux que nous avons, quand une femme est isolée, elle a clairement davantage... un enfant de petit poids de naissance, donc moins de 2,5 kg, ou prématuré. Donc quand elle est isolée, je veux dire par là qu'elle n'est pas et en couple et ou entourée, hein, carrément. On a regardé les deux. Et puis les chiffres montrent aussi qu'il y a plus de prématurité de petits poids de naissance lorsqu'on n'est pas suivi, que ce soit un public ONE ou un public hors ONE. Donc voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a un tas d'examens ou des habitudes aussi, des habitudes de vie qui sont là et qui ne sont pas nécessairement les meilleures, hein, voilà. Je passe évidemment tout ce qui est dépendance, que ce soit à l'alcool ou aux médicaments ou autres, mais même des habitudes de vie normales. Et donc, quand on dit comment est-ce qu'on peut toucher, alors l'intérêt, j'ai envie de dire, de l'office, c'est que tous les services sont gratuits et que le suivi est double, il est psychologique. psychomédico-social. Donc, il y a le psychosocial et puis il y a le médical, hein, puisqu'on est en consultation, etc. Donc, quand on est à la grossesse, l'objectif de l'ONE, c'est de couvrir davantage de femmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus ou moins à 30%. Il faudrait quand même, on espère l'augmenter, hein, puisqu'en général, on va à l'ONE quand on a un bébé, mais l'idée, c'est vraiment, même à partir du désir même d'avoir cette grossesse, hein. C'est pas toujours le désir, mais en tout cas, on le souhaite, on l'espère. Mais c'est vrai que comment est-ce qu'on le touche? L'office, en fait, ne demande aucun papier, c'est-à-dire ne demande aucun document officiel pour pouvoir avoir accès à. Ça veut dire que l'accessibilité va se faire dans les prisons. Aussi, elle va se faire dans les endroits où les personnes n'ont pas de papier. Quand je dis les endroits, je le fais exprès parce que c'est pas nécessairement des centres. Ça peut être aussi vraiment des cas isolés et du bouche à oreille. Et donc les PEP se rendent dans les domiciles sans rien demander. Donc ça, c'est super important. Partir de la bientraitance et des compétences parentales, c'est aussi important parce que on croit qu'on a des jugements et une espèce de décentration de soi. Pierre Moisset, un sociologue français, on parle très très bien de se décentrer de ses propres représentations pour pouvoir se dire mais qu'est-ce qui est important chez l'autre. En fait, c'est ça, hein, l'idée. C'est pourquoi des campagnes parfois ne fonctionnent pas de sensibilisation, parce qu'on veut apporter quelque chose de bien selon nos normes à nous, mais qui ne font pas nécessairement sens pour les autres. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers. Et j'ai envie de dire, quand vous me parliez des couches, parce que voilà, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais quand vous me parliez de différentes couches, donc nous, on est Fédération de Bruxelles. C'est clair que, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que les populations qui ne sont pas belges, qui viennent plutôt du sud, elles sont en général mieux entourées. Elles ont un réseau qui est différent pour l'allaitement, pour garder l'enfant, etc. Donc, il y a une espèce de d'us et coutumes de voisinage aussi, etc. Et puis, on a d'autres couches de populations qui vivent dans des situations tellement précaires, j'ai envie de dire, dans des campings avec vraiment des conditions de vie difficiles. Et là aussi, l'ONE s'y rend. Dans les régions très rurales aussi, où il n'y a pas de moyens de transport facile, etc. Donc, c'est des choses très concrètes, mais là, il y a des cars sanitaires. Hein, donc, on a des cars avec les médecins et les PEPS qui sont dans ces cars et qui vont vers les populations. Donc, j'ai envie de dire que la proximité géographique, c'est vraiment le B.A.B.A. Hein. On ne peut pas toujours faire venir les gens. C'est aussi à nous à aller. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaye de accompagner, dans le sens pur du terme, accompagnard, et donc être à côté de la personne pour avancer.
Vous constatez aussi, parce qu'il y a un constat qui apparaît dans vos témoignages, c'est aussi la question, on parlait d'information, mais aussi cette barrière de la langue ou une barrière culturelle. Ça peut être aussi un poids, une difficulté en plus par rapport à tout ce que la précarité, vous releviez une précarité matérielle en termes de logement, d'emploi et autres, mais cette barrière linguistique ou culturelle, elle peut être aussi... C'est une barrière peut-être que les autorités ne prennent pas suffisamment en compte, surtout dans la manière dont ce pays est constitué. Mais ça peut apparaître un frein. Je vois que vous opinez, Emmanuel Van Bussy.
J'ai connu aussi personnellement, mais enfin, et d'autres questions qui arrivent sur le site. On se rend compte que certaines mamans ont, de manière confessionnelle ou culturelle, des difficultés à entendre certaines informations, même si elles sont dites dans leur langue, et à les répercuter auprès de leurs proches, leurs coparents, leur mari, leur famille, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes relatifs à la responsabilité, à la culpabilité. Si, par exemple, il y a une annonce d'enfant qui sera handicapé, ou de difficultés, c'est une forme de précarité très importante qui est de comment pouvoir gérer ça dans la famille, cette information difficile, comment les uns vont faire éventuellement des reproches aux autres, d'où vient cette malédiction, entre guillemets. Donc, on peut observer parfois que des informations ne peuvent pas passer d'un point de vue culturel, et ça reste une question de savoir comment les annoncer, comment les accompagner aux côtés de la foi, de la religion et de leur expliquer, par exemple, qu'un soutien psychologique ne vient pas en contradiction avec l'expression de la foi et que c'est un endroit où on peut éventuellement déposer, se faire accompagner et qui permet d'être plus serein par rapport à une difficulté, un diagnostic anténatal qui n'est pas bon ou un accouchement qui ne s'est pas bien passé. Donc, voilà.
Et vous avez l'impression, Rachel Gourdin, dans votre pratique de sage-femme, là aussi, c'est une question qui apparaît peut-être de plus en plus, qu'on essaye aujourd'hui de travailler davantage pour ne pas apporter un jugement qui soit moralisateur ou autre, mais pour accompagner, comme on le disait, au mieux ces mères et leur entourage.
Alors c'est vrai que nous, on a une pratique à aquarelle qui est peut-être un petit peu différente, enfin je veux dire, pour le reste des sages-femmes, c'est que pour nous, de toute façon, la barrière linguistique, c'est une donnée. Et donc, alors on le note, hein, on a une feuille où on note plein de choses, justement, sur la précarité, pour essayer de prendre des informations dont on a besoin pour notre rapport d'activité annuel. Et la barrière linguistique, on la note. On note barrière linguistique et on note s'il y a un interprète. Alors l'interprète, c'est pas forcément quelqu'un de présent, ça peut être aussi Google Translate ou d'autres applications. Je mets aussi barrière linguistique quand je peux parler avec cette dame, mais qu'elle ne parle pas une langue du pays, une des trois langues du pays. Mais si je peux m'exprimer, si elle comprend l'espagnol ou si elle comprend l'anglais, pour moi, je peux communiquer avec elle, mais pour elle, ça reste une barrière linguistique. C'est-à-dire que quand elle est dans le reste de la société, quand elle va au CPS, quand elle va à la commune pour faire la déclaration de naissance de son bébé, elle est en situation de barrière linguistique. Et donc, forcément, c'est pour nous, dans notre prise en charge, finalement, dans notre prise en soin, moi, j'ai pas trop de problèmes avec la barrière linguistique. C'est très, très rare, vraiment très, très rare. Mais je prends ça en considération parce que pour cette patiente, c'est une barrière. Donc c'est ça, en fait, c'est de trouver entre... Moi, je peux communiquer avec elle. Il faut dire aussi que le métier de sage-femme, ça passe beaucoup par les mains. Donc je peux... Voilà, on a un rapport vraiment au corporel. Et donc, j'ai pas besoin de lui... Il y a des choses dont j'ai besoin, voilà, d'exprimer, d'expliciter. Et là, les traducteurs sont... Voilà, les applications sont très performantes. Et sinon, tout le rapport, la mise en confiance et le lien concret, ça passe aussi beaucoup, voilà, par le toucher. Et donc, c'est finalement assez simple de rentrer en relation avec l'autre. Mais je garde en tête que pour elle, c'est une barrière pour le reste du suivi de ce process.
Et vous, à l'ENE, justement, vous êtes une institution francophone. J'imagine que les consultations se font en français. Mais comment, voilà, on travaille pour accompagner au mieux, comme vous le disiez, ces mères qui voient dans la langue ou dans certains éléments culturels des barrières supplémentaires?
Alors, c'est sûr que pour ces personnes-là, ce sont des barrières. Et j'ai envie de dire, pas que la langue, mais aussi tout simplement la compréhension A, ou la lecture A. Donc c'est vrai qu'à l'ONE, on sait bien, il y a énormément de dépliants, de brochures en français, c'est clair. Mais on a aussi, on a traduit beaucoup de choses dans plusieurs langues, et pas du tout que le néerlandais ou l'allemand, pas du tout, mais plutôt dans les langues auxquelles on doit faire face aujourd'hui, hein, donc le russe, par exemple, l'arabe, enfin bon, voilà, donc il y a pas mal de langues qui ont, alors pas toutes les brochures, mais en tout cas les principales et certaines. Au niveau du terrain, elles savent qu'elles peuvent appeler des interprètes. On a des conventions avec des institutions et ça se passe bien. Dans les crèches aussi, on essaye, parce qu'on a aussi un regard, hein, sur les crèches, bon, bah, c'est quand bébé est là, mais c'est aussi important parce que souvent la langue, elle arrive par l'enfant. Hein, donc, mais on essaye que cet enfant, ce soit pas trop décousu pour lui et qu'il puisse avoir certaines phrases, en tout cas dans sa propre langue, et que chacun puisse voir, tiens, ça c'est la mienne, ça c'est la tienne, etc. Alors, à côté de ça, on a aussi construit des dépliants et des brochures sans texte, qu'avec des dessins, parce qu'on remarque que la lecture n'est pas non plus accessible toujours par celui qui est né en Belgique. Donc, c'est aussi important de tenir compte de cette précarité-là, de cette difficulté-là. Et ça fonctionne plutôt bien, ces espèces d'images où la représentation de mon geste, par exemple, à faire avec bébé, elle est assez simplement expliquée. Et où, de cette manière-là, parce que j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, hein, où parfois... C'est assez terrible ce qu'on peut entendre, et pas nécessairement par des personnes qui sont nées ailleurs, ou en tout cas des personnes migrantes. Ces photos-là sont marquantes pour les personnes. On voit à quel point ça peut vraiment aider au quotidien dans la transmission des besoins, par exemple, élémentaires de la grossesse ou d'un bébé.
Alors je vous propose un deuxième temps du débat, c'est aussi de voir comment on a évoqué la précarité qui pèse et les difficultés que peuvent rencontrer les mères. Évidemment, ce n'est jamais qu'un petit panel, malheureusement, de toutes les réalités. Il nous faudrait bien des heures pour évoquer ça. Mais je vous propose maintenant un deuxième temps du débat, c'est celui de comment on accompagne toutes ces mères avec les difficultés que vous avez rappelées, et comment rappeler donc à ces femmes qui ont souvent eu des parcours de vie difficiles, dans lesquels elles ont eu peu l'occasion de faire des choix, et à de nombreux niveaux, qu'elles ont voix au chapitre aussi quant à leur grossesse et accouchement. Alors je me tourne vers vous, Rachel Gourdin, pas parce que vous êtes en face de moi, mais parce que vous êtes aussi sage-femme, et donc vous êtes directement confrontée à ces situations. Mais comment on fait à un moment où on évoque des modes d'accouchement, je ne vais pas dire alternatifs, mais où les femmes font d'autres choix, de nouveaux choix, comment on peut aussi accompagner ces personnes vers des choix plus personnels, où elles ont cette voix au chapitre?
Je suis contente que vous abordiez ça, ça me tient vraiment à cœur. Alors à Aquarelle, et puis je pense de toute façon dans le métier de sage-femme de manière générale, on est vraiment au service des femmes. Il y a vraiment cette idée que voilà, il y a l'empowerment, c'est extrêmement important. Les femmes que nous on suit à Aquarelle sont, oui en effet, beaucoup ont subi un continuum de violences basé sur le genre, soyons clairs. Donc si elles sont parties de leur pays, c'est que souvent il y avait quand même des situations de violence. Le trajet migratoire est souvent assez long et ponctué aussi de violences, notamment des violences sexuelles. Et il arrive aussi que la grossesse que nous on découvre et qu'on suit soit issue d'un viol. Donc une acceptation qui peut être un petit peu compliquée, pas un petit peu compliquée, d'ailleurs très compliquée. Et puis en effet, c'est vrai que très très souvent, on rencontre des femmes qui n'ont jamais eu le temps de déplier en fait leurs sentiments, leurs ressentis, parce qu'on leur a jamais laissé cette place-là, on leur a jamais posé la question. Elles sont pas allées, pour beaucoup, elles ne sont pas du tout allées à l'école. Et que finalement, on leur montrait qu'elles comptaient moins, que c'était pas des êtres humains, qui avaient finalement une valeur aussi importante. C'est ce qu'elles nous transmettent. Et que cette grossesse, ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée pour plein de choses. Ça peut être une porte d'entrée pour la langue. On parlait de la langue. Elle peut commencer à prendre des cours de français. Il faut avoir ce temps-là, ce temps long et ce temps de qualité pour que cette femme puisse commencer justement à exprimer des désirs. Ça peut être parler de la contraception, parler du consentement, parler de la sexualité. Et donc, en arriver justement aussi, cette idée de consentement, c'est sur tous les aspects de sa vie. Et donc, on pose toujours, on fait très très attention avec toutes les femmes évidemment, mais là encore plus, tous les actes techniques, un frottis, un toucher de col, c'est toujours avec un consentement. On explique ce qu'on va faire, on dit à la dame qu'elle a le droit de refuser, que son corps lui appartient, et que voilà. Et donc déjà, on prépare plein de choses sur, pendant l'accouchement, en effet, on va toucher des parties de votre corps, toujours avec votre consentement, mais on va toucher vos parties intimes, on va toucher vos seins, on va toucher votre ventre à plusieurs reprises, plusieurs intervenants, mais vous avez le droit de refuser. Et si on a ce temps-là, de faire des préparations à la naissance, en effet, les femmes se sentent beaucoup, beaucoup plus en capacité de faire des choix éclairés. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, pas que pour les femmes en situation de précarité.
Et vous l'avez, ce temps ?
On essaye de le prendre. Oui. Mais il faut que les femmes arrivent vite. Mmh. Et c'est ça. On parlait justement des non-suivis de grossesse. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Si on voit une femme à partir de... soyons extrêmement, extrêmement optimistes, à partir de 8 semaines de grossesse, alors là, c'est vraiment le cas extraordinaire, et qu'on a le temps de mettre en place toutes ces préparations à la naissance, ces préparations à l'allaitement, qu'elle a fait du yoga, de la kiné et autres, et bien là, en effet, elle a plus de chances de pouvoir accoucher comme elle le désire.
Si je vous entends bien aussi, c'est aussi admettre, accepter qu'on doit prendre soin de soi et donc du futur bébé. Je me demande aussi si à l'ONE, comment vous accompagnez justement dans cette phase-là les femmes, quand elles sont, comme vous le rappelez, Rachel Gourdin, elles sont confrontées à de multiples problématiques pour accepter qu'on va prendre soin de soi, qu'on va accepter qu'on va s'occuper d'un bébé. C'est pas facile déjà quand les situations sont normales, mais quand les situations sont compliquées, précaires, c'est sans doute...
C'est intéressant ce que dit Rachel, et c'est très complémentaire avec ce que fait l'Office, parce que la sage-femme va toucher. Jusqu'à l'ONE, on ne fait pas. En fait, l'ONE intervient aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Il arrive quand le bébé est là. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, on prépare cette arrivée de l'enfant. Mais l'intérêt, c'est que comme on se rend à domicile, on peut aussi voir des choses que peut-être d'autres ne voient pas nécessairement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des situations terribles où le bébé est presque nié, il est là, on sait qu'il va arriver, mais rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il va dormir, on ne sait pas où il va jouer, on n'a rien aménagé et on se dit, la mère ne pense pas aux soins. C'est pour ça que je fais le lien avec le soin de soi, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que je suis confortablement installée pour nourrir cet enfant? Ça n'existe pas, il n'y a rien de prévu. Donc, je pense que le travail complémentaire avec d'autres, comme les sages-femmes, ou comme d'autres, des psys qui peuvent aussi parfois intervenir, quand on a beaucoup de chance, qu'il y a une acceptation qui est faite, mais que l'idée, c'est que, est-ce que les besoins primaires sont déjà remplis? Je crois que l'ONE, il essaye aussi faire un maximum ce travail-là dans un logement correct. Est-ce que le matériel est là pour l'enfant? Donc toute cette préparation-là, elle est importante. Et aussi dire, mais ne pas se priver des soins qui peuvent être octroyés effectivement par la sage-femme et par la suite de la grossesse aussi, où il y a quand même des cas terriblement difficile, où la vie reprend dans un climat de violence, des violences intrafamiliales. Et plus vous cumulez, en fait, c'est ça aussi qui est important, plus vous cumulez les enfants, et plus on remarque dans les chiffres aussi que c'est un facteur d'appauvrissement des femmes. Voilà. J'aime pas toujours dire des femmes, parce que le compagnon, il est aussi important, l'autre parent. Mais en tout cas, les femmes sont vraiment touchées par cet appauvrissement-là, pour 1000 raisons. Et c'est vrai que Rachel parle plus des femmes migrantes, ou des femmes qui sont vraiment dans des grosses précarités telles que celle-là. Et moi, j'insiste sur le côté universel de la précarité, et sur toutes les femmes qui vivent des situations extrêmement complexes et aussi de précarité dans le non-dit. C'est-à-dire, ça ne se dit pas. On ne peut pas dire ce qu'on vit à la maison, on ne peut pas dire l'isolement dans lequel on est. Et le choix et la parole des femmes, c'est quelque chose qui se crée, en tout cas au niveau de l'Office, dans ce lien de confiance qui est créé, puisqu'on suit quand même jusqu'aux 6 ans de l'enfant, en tout cas en consultation avec toutes les vaccinations. Et donc les diverses grossesses qui arrivent, il y a la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et donc la libération de la parole, elle se fait au fur et à mesure du temps, et je pense que ce temps-là, malheureusement, effectivement, parfois, on ne l'a pas parce qu'il y a des déménagements, parce qu'on perd les familles pour 1000 raisons.
Et il y a des urgences, et vous évoquez un certain nombre de cas où il y a l'urgence, où on ne sait pas où les mères vont... Elles vont accoucher, on ne sait pas où elles vont dormir, se loger simplement. Comment l'ONE, dans ces cas-là, peut travailler? Comment ça se passe face à de telles urgences, par exemple? Comment vous arrivez à travailler?
Alors, en général, on récupère par la suite. Donc, c'est-à-dire, où la femme accouche, en général, quand même, on sait quand une femme accouche. Donc, il y a quand même soit un médecin, soit quelqu'un qui en informe. Et puis, le bébé est là, il faut quand même aller le déclarer. Voilà. La difficulté, c'est vraiment toute cette grossesse qui est là, y compris les adolescentes. Par exemple, dans le Hainaut, il y a plus de mères adolescentes que dans d'autres provinces. Je vous disais, on couvre la Fédération de Bruxelles, donc il faut aussi en parler. Et donc, ces jeunes filles qui accouchent à la maison, parfois vraiment dans un tabou extrêmement fort, où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que, par exemple, et ça c'est clair, je pense que c'est aussi une requête à faire, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lits pour ces personnes-là en termes d'urgence, que ce soit pour les mères avec leurs enfants qui arrivent en, ou que ce soit pour des adolescentes, où parfois on a des endroits où elles peuvent aller accoucher, mais il faut par exemple 16 ans. Or, non, on peut avoir 13 ans et devoir accoucher de cet enfant. Et pas nécessairement dans un hôpital, parce que les parents, pour 1000 raisons, ne le souhaitent pas au niveau des tabous, des non-dits, des représentations, etc. Et donc, je pense que c'est aussi important de redire qu'il n'y a pas suffisamment de lits et qu'il y a encore des cas d'urgence. Alors, on fait ce qu'on peut. Il y a encore des urgences qui ne sont pas prises voilà, qui ne sont pas prises en compte, puisque tout simplement, on n'est pas informé de ça. Souvent, il faut quand même le savoir, les pédiatries, les services de pédiatrie dans les hôpitaux font office de lit. Ce n'est pas du tout l'endroit d'un enfant hein, qui vit une situation difficile, mais pas, il n'est pas malade. Donc, il n'a rien à faire là. Mais c'est quand même dans ces services-là qu'on retrouve dans l'urgence des enfants, puisqu'ils sont en sécurité, évidemment, des enfants qui vont passer des jours et parfois des semaines, alors que ce n'est pas du tout à leur place.
Pour faire le lien aussi avec vous évoquiez, Emmanuel Van Beuzin, la base de données SOS, justement par rapport à ces situations d'urgence, en quoi le travail que vous menez à Born in Brussels apparaît aussi important pour des situations où les réponses ne peuvent pas attendre des semaines ou des mois?
Alors, en espérant, hein, que, comme je vous le disais, que les services qu'on propose, enfin, les services, les organismes qui sont répertoriés dans les différentes thématiques de l'urgence périnatale soient disponibles, il permet en tout cas d'être connu de tous ces acteurs qu'on essaye de fédérer. Et je pense aussi à l'agenda qu'on a mis en ligne et qui permet aux professionnels de mettre des annonces. Donc, de formation, on favorise le plus possible toutes les formations qui sont le plus accessibles d'un point de vue financier et qui sont offertes en différentes langues, en région bruxelloise, dans des hôpitaux, dans des maisons médicales, dans toutes sortes d'organismes. Ça concerne le yoga prénatal, une grossesse gémellaire, comment gérer un diabète de grossesse, tout ça dans en groupe, de manière à ce que les mamans puissent aussi s'entraider, se soutenir. Donc les professionnels peuvent mettre ces annonces dans l'agenda auquel le grand public a accès, ou bien les travailleurs sociaux qui peuvent relayer à leurs patientes. Et il existe aussi d'autres émergences de réseaux, parce qu'il y a vraiment, on sent qu'à Bruxelles, il y a une nécessité d'accompagner les mamans d'un point de vue santé mentale. Et donc, il y a un programme Crosslink qui est mené par Brustars, qui est le réseau santé mentale périnatalité petite enfance, qui a rassemblé ce lundi 40 acteurs issus des hôpitaux, des crèches, du SAJ, beaucoup de psychologues, pédopsies et tout. Donc, ils veulent élargir, j'en profite, donc, pour inviter la première ligne, tous les médecins généralistes, les sages-femmes, les kinés, les logopèdes, les psychomotriciennes et autres, à rejoindre ce réseau qui est émergent et qui va proposer une cartographie des acteurs de la santé mentale, parce que finalement, ce sont des référents qui sont là à tous les niveaux et qui sont aux côtés des autres travailleurs, des autres soignants, puisque, comme le disait Rachel, mais aussi Sylvie, les problèmes sont intimement liés à des conditions de précarité matérielle, financière, et souvent qui aboutissent à la précarité psychique. Donc ce réseau Crosslink, il a pour ambition de fédérer des acteurs aussi bien irlandophones que francophones. Toutes les petites initiatives qui se passent dans tous les coins, donc ne pas réinventer la roue chacun de son côté. Et donc, on espère pouvoir, sur le site Born in Brussels, bientôt proposer des pages avec cette cartographie d'acteurs. Et donc, je sais qu'ils ont l'ambition de rédiger un livre blanc de recommandations et de questionnements au niveau bruxellois, mais aussi au niveau fédéral. On parle aussi je pense à la précarité des mamans qui ont des enfants malades et qui doivent accoucher. Chez nous, c'est, comme on a aussi le site hospitchild.be, c'est des questions qui arrivent tous les jours. Je pense aussi à ce généraliste qui nous appelle parce qu'une maman doit accoucher, elle a 4 enfants et elle ne sait pas comment les faire garder, tout simplement, pendant l'accouchement. Et elle accouche dans 2 ou 3 jours. Donc, c'est des questions d'urgence. Là, il faut bricoler avec des acteurs. C'est pas toujours simple. Donc, voilà. Mais il y a vraiment une conscience bruxelloise des acteurs qui savent qu'ils doivent faire réseau. Et pas seulement les psys, tout ça, mais tous les métiers.
Toutes les parties prenantes. De la périnatalité.
Oui, voilà, vraiment. Les organismes aussi. L'ONE, les antennes locales à Bruxelles, Médecins du Monde. Voilà. Les SAMU sociales.
Mais j'imagine que tous les acteurs que vous évoquez sont aussi conscients des enjeux. Il ne s'agit pas non plus de rester chacun dans son précaré. Tout le monde conscient des urgences aujourd'hui.
Ils sont très conscients, oui, parce qu'ils ont chacun des problèmes auxquels ils ne peuvent pas répondre. Donc parfois, c'est vrai qu'on fait appel à des services qui ne sont pas spécialisés pour prendre en charge une famille, par exemple, qui se retrouve avec un enfant, un tout petit enfant très gravement malade à la rue. Bon, donc ils vont s'entraider, s'épauler, mais après, c'est parfois pour 2-3 jours, donc il faut qu'il y ait un autre acteur qui prenne la relève. Donc il faut qu'on se connaisse très bien et qu'on sache très bien quelles sont les limites et puis aussi, j'allais dire, les extras dans lesquels ces acteurs peuvent être pertinents et qui ne sont pas toujours dans leur réseau social ou sur leur site web. C'est parfois pas des choses qu'ils ont envie qu'on sache non plus, qui peuvent aider dans certaines situations. Donc c'est pour ça que, pour pouvoir bricoler, excuse-moi du terme, mais, bricoler efficacement entre nous, il faut qu'on se connaisse très bien. Aussi, voilà, pour pouvoir référer les uns aux autres. Enfin, je pense que Rachel,
vous vivez ça quotidiennement. Essaye de maïséner comme ça.
Voilà,
c'est une espèce de maïséna pour que ça prenne, mais c'est pas simple.
Et justement, par rapport à vous, Emmanuel Van Beuzin faisait la transition avec vous, Rachel Gourdin, pour Aquarelle, est-ce que justement vous devez souvent bricoler et simplement en vous écoutant, et j'imagine que les personnes qui vont nous écouter aussi auront peut-être ce sentiment, mais on a l'impression que votre rôle de sage-femme déborde régulièrement vers d'autres tâches. J'imagine, ne serait-ce que dans de l'accompagnement psychologique, on a beaucoup parlé de santé mentale, mais j'imagine peut-être aussi sur d'autres situations. Alors comment justement, pour vous, mais aussi pour les mères que vous accompagnez, comment mettre comment faire en sorte que vous ne dépassiez pas de votre rôle et que vous puissiez continuer à les accompagner au mieux dans ce qui est votre...
On travaille beaucoup sur ces problématiques-là, hein, de toute façon. Alors, on a beaucoup de souplesse, on est une petite équipe, bon, on est soutenu, on est dans Saint-Pierre, donc on est dans un gros CHU, mais on est une petite équipe et on a beaucoup de souplesse parce qu'on en a besoin par rapport à aux mamans qu'on suit. Les femmes en retard, c'est pas grave. Les femmes qui ne viennent pas, c'est pas grave. Voilà. Et dès qu'elle est là, on met tout en place dès qu'on peut. En effet, les limites, voilà, jusqu'où on peut aller, à quel moment on déborde, à quel moment on n'est juste pas efficace parce que c'est pas notre travail. Moi, je suis pas psy. Je peux me rendre compte qu'il y a une souffrance psychique, psychologique chez la femme qui est en face de moi. Et là, mon rôle en tant que sage-femme, c'est d'alerter, c'est de lui en parler clairement de ce que je ressens. J'ai l'impression qu'elle est triste, j'ai l'impression qu'elle pleure tout le temps, je m'inquiète pour son bien-être et je lui dis, on peut trouver des solutions. Est-ce que vous voulez qu'on cherche des solutions? Si elle est partante, et ben c'est à moi par contre d'aller trouver d'autres intervenants et de faire cette passation-là. En fait, ça, c'est mon rôle en tant que sage-femme. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'on disait, voilà, il y a un réseau bruxellois qui est quand même très actif, très, très actif. De se connaître les uns les autres, ça joue beaucoup. Parce qu'en effet, il y a l'émission, clairement, verbalisée, que tout le monde connaît. Et puis, il y a un peu les entre-deux. On peut dépanner là-dessus, tout ça. On fait tout ça. Et c'est chouette aussi qu'on ait cette souplesse-là. Il ne faut pas après que ce soit non plus, voilà, que ça devienne la principale, enfin, le corps de notre activité. Il faut que ce soit toujours un peu à la marge, mais on peut faire ça. Et on s'entraide les uns les autres. Et voilà. Et donc, ce réseau-là, il est très important parce que ce dont souffrent, en fait, les femmes, je trouve, en situation de précarité, c'est beaucoup l'isolement. Ça, c'est vraiment pour moi le principal problème, c'est l'isolement. Et donc, de trouver en effet cette grossesse, ça peut être encore une fois une porte d'entrée pour qu'elle rencontre d'autres personnes, mais surtout aussi que nous, on mette en place un réseau associatif autour de cette dame. Les consultations ONE, moi je pars jamais de chez une dame sans avoir appelé la consultation ONE de quartier en postpartum. Jamais. Je fais toujours le relais avec la consultation, bien sûr. Il faut qu'on balise que cette dame, voilà, elle n'est pas lâchée comme ça, elle a besoin de soutien, de fondation, voilà. Et donc c'est mobiliser les ressources et chez cette dame et dans notre propre réseau pour faire en sorte que voilà, l'arrivée de ce bébé se fasse le plus sereinement possible.
Et la suite aussi. C'est déjà une grosse étape, mais la suite n'est pas mal non plus. Ouais. Et cette transition, vous diriez, voilà, ce réseau existe, mais est-ce que la transition est toujours si simple? Parce que vous disiez, les services sont débordés et il y a peut-être parfois encore du bricolage à faire, même si le réseau existe.
C'est l'hébergement le problème. Pour moi, c'est le principal problème. L'ONE, c'est pas le problème. Ça, on arrive toujours à trouver des places dans les consultations. J'étais chez une dame il n'y a pas si longtemps, j'avais besoin d'une prescription pour traiter un muguet, j'ai appelé la consultation, ils ont dit « on la voit tout à l'heure à 14h45 ». Voilà, ça, donc ce n'est pas ça le problème. Il y a plein de gens qui sont très réactifs. L'hébergement, pour moi, ça reste la principale source de stress et le principal facteur de vulnérabilité des femmes qu'on suit. soit celles qui sont dans le parc privé et qui payent des fortunes pour des logements tout à fait insalubres et pas du tout adaptés à l'arrivée d'un enfant, soit les femmes qui sont hébergées à droite à gauche, soit les femmes qui sont dans les hébergements d'urgence qui ne sont pas adaptés et qui sont sursaturées. Ça, je pense que les gens du SAMU social, les gens de la Croix-Rouge et les gens des centres faits d'asile ne diront pas le contraire. Ils sont vraiment en flux tendu, hein. Et ça, c'est très compliqué.
Et Sylviane Zalone, vous aussi, vous constatez que le logement, l'hébergement aussi est un problème, ne serait-ce que pour un suivi, surtout si on est dans un logement précaire, donc il y a des problèmes d'humidité généralement et autres qui ont des conséquences tant sur la mère que l'enfant, ou aussi si on doit aller d'un lieu à un autre.
Tout à fait, et pas que sur Bruxelles, mais probablement, voilà, on est dans une capitale et c'est surconcentré. Mais c'est ce que j'appelais tout à l'heure, cette fameuse requête qu'il faut faire, qu'il faut relayer, parce que sinon on ne la relaie nulle part, c'est que cette place d'accueil, j'appelle place d'accueil quand Rachel dit hébergement, peu importe le terme qu'on emploie, pour la mère et son enfant et ses enfants. C'est certain que c'est autant la difficulté et j'ai envie de dire un hébergement qui rend possible l'après. Et c'est ça qui est parfois compliqué dans les places d'urgence, c'est que c'est dans l'urgence, c'est très bien, enfin c'est très bien, heureusement que ça existe, et voilà, et ça pense à un moment, mais ça ne pense pas à l'après, et ça ne prépare pas à l'après, et ça c'est vraiment très très compliqué.
Alors justement, on parlait de places d'accueil, ça me fait penser aussi aux crèches, hein. C'est un lieu aussi important dans le parcours qu'on évoquait, tant pour la mère, si elle veut se reconstruire, trouver une formation ou autre, parfois chercher simplement un logement un peu plus décent dans lequel elle est, mais aussi pour l'enfant, pour faire ses premiers pas. Et on sait les difficultés qui sont liées à cet accès aux crèches. On sait que c'est pourtant un lieu de socialisation pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Un avantage qui est d'autant plus grand quand on vit dans une situation de grande précarité, où notamment on parlait des langues aussi, mais quand les enfants ne parlent pas le français ou le néerlandais à la maison. On sait le rôle essentiel que jouent les crèches dans la réduction des inégalités, mais pourtant leur nombre est insuffisant au regard de la demande, et notamment par rapport à ce public précarisé. Alors je me tourne tout de suite, malheureusement pour vous, vers Loïne. Que peut-on faire ?
Je pourrais en parler des heures, hein, de ce secteur des crèches, enfin, vraiment des heures. Mais donc, ce qui est important de dire, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas assez de place. Je pense que cette pénurie de places, alors elle n'existe pas partout, elle n'est pas similaire partout, donc il y a des couches. Et j'ai même, avant on disait telle province ou telle province, encore aujourd'hui il y a des provinces comme celle de Liège ou du Hainaut qui ont un taux de couverture moins élevé, et donc on leur octroie dans les plans cigognes plus de place pour que ce soit équitable. Je réduis évidemment mon discours, mais en gros c'est comme ça. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des couches dans les provinces, même des quartiers où les places, on en parle moins, hein, quand c'est comme ça. Mais les familles trouvent relativement facilement, et puis il y en a vraiment, c'est la croix et la bannière. Donc ça, c'est vraiment important de le dire, et que les 5200 places qui vont être créées dans le plan Cigogne jusqu'en 2025, ça ne suffira pas. D'autant plus qu'au suite des crises successives, et on va passer tout le contexte, il y a eu aussi des fermetures de places d'accueil non subventionnées. Donc l'idée ici, c'est d'ouvrir des places accessibles, subventionnées, c'est-à-dire que le parent paiera en fonction de son salaire. Et encore, hein, on a vu les dernières mesures gouvernementales qui font que ça, pour certains foyers en tout cas, ça peut baisser sans que la crèche soit mise à mal. Ça, c'est évidemment en théorie, c'est jamais si simple. Mais donc, l'idée principale, c'est encore une requête, c'est de se dire, mais évidemment qu'il faut investir là, évidemment qu'il faut plus de moyens pour ça, et pas seulement pour un lieu socialisation des enfants, mais avant tout aussi pour que le parent puisse, de manière sécure, laisser son enfant à un endroit, et lui, essayer de, surtout puisqu'on parle de précarité, essayer de... organiser sa vie pour que cet enfant, la vie de famille de manière générale, puisse être saine, sereine. C'est-à-dire, est-ce que je peux ramener de quoi payer ? De quoi payer mon loyer, la nourriture, les vêtements, des choses assez simples, basiques. Hein. Dans la pyramide, c'est quand même ce dont on a besoin avant tout. Est-ce que je peux me suivre une formation ? Comment font les femmes lorsqu'elles doivent garder les enfants à la maison pour chercher du travail, pour suivre une formation, même momentanée, pour aller travailler, même dans des contrats extrêmement difficiles et précaires. Elles ne peuvent pas le faire, c'est impossible. Donc, je pense que la place d'accueil, c'est un choix politique, c'est un choix de société. Les besoins ont augmenté aussi parce que, si on fait une analyse sociologique de la société, c'est évident qu'aujourd'hui, on a davantage besoin de ces places d'accueil. Et à côté de ça, vous avez effectivement cette idée de réduction des inégalités, puisque l'enfant a accès à plein de choses dans les crèches qui sont vraiment intéressantes pour lui. Et donc, c'est toujours dans l'idéal. Et j'aime bien aussi le rappeler, même si ce n'est pas dans la réalité telle que voilà, ça se passe, un enfant égale une place d'accueil. C'est pas un parent, mais c'est un enfant, c'est-à-dire que le parent travaille, ne travaille pas. Quel que soit son statut, l'enfant a le droit à. Et j'ajouterai à cela pour terminer le propos, c'est qu'effectivement, il y a un énorme décalage. Il faut comprendre ces métiers-là qui ne sont pas faciles. Il y a un énorme décalage entre la reconnaissance sociale qui est faite et la reconnaissance financière de ces métiers-là. Et toute l'importance et l'impact que ça aura. Dans la vie, dans la construction de l'enfant. Et je pense qu'effectivement, c'est à rappeler, c'est à redire, et il y a des... Voilà, c'est des choix de société. Il faut aller voir un petit peu ce qui se passe dans les pays du Nord, hein, en Europe du Nord, où on se dit, mais peut-être qu'on a aussi... On fait des choses bien, hein, il faut aussi se le dire, mais on a encore beaucoup de travail et on peut s'inspirer d'autres politiques qui ont compris, en fait, qu'il faut investir dans l'enfance. Mmh.
Et justement, Rachel Gourdin, je regarde un petit peu parce que vous disiez effectivement on a beaucoup de situations auxquelles on est compétent, pas forcément on doit faire des transitions. Est-ce que cette question des crèches apparaît, sachant qu'on peut demander un accès à la crèche dès, le sixième mois, sauf erreur?
Nous on travaille sur tout, hein, donc ouais. Ça aussi, ça beaucoup. Donc oui, on en parle déjà en anténatale. Avec nos patientes et si elles le désirent, c'est comme la contraception, ça fait vraiment partie des sujets où voilà, dès la grossesse on en discute, comme ça on a encore une fois le temps de déplier les choses, hein. Parce que derrière la crèche, peut-être que pour nous ça semble assez cohérent de mettre son enfant à la crèche pour retourner travailler 2 à 3 mois après l'accouchement. Pour beaucoup de dames qui viennent d'autres milieux, d'autres cultures, c'est la première fois qu'elles entendent parler de ça, donc ça fait pas encore sens. Voilà, est-ce que je laisse mon enfant à des gens que je ne connais pas? Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Donc déjà, d'expliciter, on peut aller visiter des crèches ensemble, tout ça. Et il y a des femmes qui le refusent, qui sont certes en situation de précarité, mais il y a un monsieur qui est là, il travaille un petit peu au black, tout ça, et elle, dans son esprit, une dame, ça reste à la maison et ça élève les enfants. Bon, soit. Donc c'est comme ça. Donc c'est pas pour toutes les femmes non plus. Il faut que ça parte aussi d'un désir qu'elles ont de faire une formation ou de retourner travailler. Et donc, on cherche des places de crèche, oui, comme tout le monde. On a des accords, on vous dira pas avec qui, hein, parce qu'on a peur que vous nous les preniez. Et donc, on a des accords avec des crèches où, en priorité, on peut les appeler et avoir des places. Et on paye les crèches, nous, à Aquarelle, avec nos sous à nous, vos sous à vous, en fait, l'ONE, parce que c'est vous qui vous êtes notre principal bailleur. Mais donc, on paye certaines dames des crèches. Voilà, jusqu'à ce qu'en effet, ça puisse rouler pour elle et que l'enfant rentre à l'école à 2 ans et demi. Et on sait que c'est un super tremplin. On sait que c'est vraiment, vraiment très important et pour la femme et pour l'enfant.
Ce que Rachel dit, excusez-moi, c'est que parfois il y a de la non-demande. On en tient beaucoup compte aussi au niveau de l'ONU. On essaye aussi de l'anticiper parce qu'il y a des femmes qui se disent « Mais moi, je bosse pas, c'est mon mari qui travaille. » Et donc, il n'y a aucune raison que... C'est juste parfois cette barrière-là. Alors que... même pour elle-même, parfois, hein, pour son bien-être mental, si elle doit aller suivre des soins psychologiques ou autres, c'est peut-être aussi important qu'elle puisse compter sur ce que le pays dans lequel elle est met en place. Mais parfois, elle ne sait pas qu'elle a le droit de pouvoir même le formuler. Et ça, c'est en tout cas au niveau de l'ONE, c'est pas que tous les enfants doivent aller en crèche, parce qu'effectivement, c'est pas il y a des cultures ou même il y a des volontés où ça ne se fait pas comme ça, mais dans tous les cas, que la femme ait ce choix-là, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir un véritable choix. Et puis on respecte son choix. Ouais.
D'où l'importance, Emmanuel Van Beuzin, et ce serait un peu la conclusion de ce réseau, de cette information, y compris sur les crèches.
Oui, tout un dossier sur les crèches, avec toutes les limites qu'on connaît. Mais en tout cas, donc, toutes les crèches bruxelloises qui sont agréées par l'ONE ou les formes de, les autres formes, hein, les accueillantes agréées, enfin, par Kinderhusin ou par l'ONE, sont disponibles sur le site commune par commune. Donc, toutes les informations sont importées du site Bruxelles Sociale où c'est remis à jour de manière assez régulière. Et donc, on trouvera sur Burning Brussels toutes ces crèches qui nous appellent d'ailleurs quand vous êtes trompé d'horaire ou on voudrait. Donc c'est bien tenu à jour. Mais je voulais aussi souligner qu'il y a des acteurs comme par exemple la Maison Parentée, qui est une maison des petits riens qui s'adresse aux parents solo, que ce soit des papas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, des papas qui se retrouvent avec des petits bébés, on y pense moins, mais ou des mamans. Donc c'est une maison qui est réservée aux parents solo. Et eux font un travail assez extraordinaire aussi dans l'accompagnement de ses parents pour la recherche d'une crèche. Ou Lilo, hein, donc à Saint-Gilles, qui a ouvert maintenant récemment une maison pour les femmes. Donc on voit quand même une émergence d'organismes, de dispositifs qui vont accompagner ces femmes dans les démarches parce qu'elles ne savent pas à partir de quand, si elles ont droit. En tant que personne qui cherche du travail, est-ce que je vais être prioritaire ou bien je vais être sur une très longue liste d'attente? Donc, il faut qu'elles puissent recevoir toutes ces informations et qu'elles soient aussi rassurées sur leurs droits d'y aller. Mais comme disait Sylvie, c'est un peu comme l'allaitement. Hein. On favorise l'allaitement, on parle beaucoup de ça, mais on doit aussi penser aux femmes qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas allaiter. Pareil pour les mamans qui n'ont pas envie que leur enfant aille en crèche. Donc il faut qu'on puisse discuter avec elles de la solution qu'elles ont trouvée. Est-ce qu'elles jugent que c'est bien pour leur enfant? Souvent, c'est une grand-mère ou c'est quelqu'un de la famille, du réseau social, quand elles en ont un, qui va prendre l'enfant en charge. Mais par exemple, même pour prendre du temps pour ça, une maman qui ne travaille pas, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir un peu de temps pour ça? Donc, il y a aussi les haltes garderies, enfin, les maisons vertes. Il y a aussi donc, tous ces dispositifs sont renseignés sur Burning Brussels. Quand ils sont soutenus, hein, parce qu'ils sont parfois certains doivent fermer malheureusement. Mais donc ça, ce sont des dispositifs importants aussi pour les mamans qui n'ont pas de crèche. Ces endroits où elles peuvent rencontrer d'autres parents, prendre une tasse de café, voir leur enfant faire connaissance avec un autre bébé, jouer et découvrir une interaction qu'elles n'avaient pas encore vue. Donc voilà. Donc tous ces petits dispositifs de l'entre-deux, comme disait toujours tout à l'heure Rachel, sont importants dans l'accompagnement de ces mamans.
D'où l'importance de la maïzena, hein, c'est comme vous disiez, pour que tout se mette ensemble.
J'aime bien le terme, parce que c'est censé coller après. Hein. Donc, mais peut-être un outil qui est intéressant, qui est tout nouveau depuis une semaine, c'est MyONE. Donc vous allez sur le site MyONE. Et ce qui est intéressant, c'est que par commune, donc par endroit géographique, vous avez l'ensemble de ce qui peut exister en termes d'offres de services pour l'enfant, à savoir les consultations, les crèches, les stages, accueil temps libre hein, quand ils sont un peu plus grands. Là aussi, c'est aussi important et il y a beaucoup à dire aussi. Et c'est un site, une plateforme à améliorer. Donc, on attend aussi les retours. Mais dans tous les cas, elle a le mérite d'exister. Alors, je rappelle, ça ne crée pas de place. Ça centralise l'information.
Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir discuté, échangé. Vous pouvez aussi prolonger la réflexion ou découvrir aussi cette réalité dans le numéro 511 d'Alter Eco, Précarité, la défaite des mères, où vous retrouverez toute une série d'articles sur le sujet. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site d'Alter Eco, altereco.be. Merci et à une prochaine fois. Précarité, la défaite des mères. Un débat organisé par l'agence Alter et son magazine Alter Eco avec le concours de Bruxelles nous appartient et le soutien d'Equal Bruxelles.